représente Jean-Claude Daguerre, qui est psychanalyste, membre d'Espace Analytique, et puis qui a surtout fait une thèse d'état avec François Châtelet sur le vampire. Donc il va vous parler d'un thème qui est la naissance du vampire.
Jean-Claude Daguerre. Oui, alors je vais vous parler un peu d'un travail qui a déjà maintenant quelques années, effectivement. Thèse, effectivement, que j'avais commencé avec François Châtelet, et qui a été interrompu par son décès, et que j'ai repris ensuite avec Gilles Deleuze. Et je me souviens de l'époque où j'avais proposé ma thèse à François Châtelet, c'était dans le Paris 8 de Vincennes, où devant sa salle qui était archiconte, je lui proposais de faire un doctorat sur le mythe du vampire. Et il est parti de son gigantesque éclat de rire devant toute la gauche prolétarienne présente en me disant bah, « ça va me changer de toutes ces conneries sur la lutte des classes ». Alors là-dessus, il me demande qu'est-ce que c'est qu'un vampire. Et je lui explique que en fait c'était un personnage totalement nouveau dans l'histoire de la démonologie. La démonologie, depuis ses premiers pères, avait admis tout un bestiaire démoniaque, et il y avait eu des thèses, des écrits, des traités sur les revenants, sur les incubes, les succubes, les striges, les lamies, la lycanthropie, etc. Et l'Église catholique admettait l'existence de ce bestiaire sans aucune difficulté. Et il y avait même des classifications démoniaques qui faisaient le pendant dans l'angéologie absolument extraordinaire. Et des gens quand même assez éclairés à leur époque, comme Jean Baudin, avait écrit quand même de la démonomanie des sorciers, où il réfutait Jean-Vire, qui quand même demandait à ce que la sorcière ne soit pas systématiquement torturée, brûlée, comme cela se faisait. Et donc quand même quelqu'un qui était quand même Baudin, qui annonçait les Lumières, était quand même du côté d'une sorte d'obscurantisme nécromancien. Alors donc, le vampire, lui, apparaît au début du XVIIIe siècle, et lui est refusé par l'Église. On a eu un texte de Benoît XIV, Louis-Antoine de Caracciolo, qui interdit les exorcismes contre les vampires, ceci n'étant que basse superstition populaire. Donc là où le revenant, il y a des thèses qui n'en finissent pas, est admis, là où le loup-garou est admis, là où la strige, la lamie, l'incube, le succube, le vampire, non. Et effectivement, on pourra ultérieurement comprendre qu'il dérange profondément l'institution religieuse. Quand j'ai expliqué ça à François Châtelet, il m'a dit « bon, ben, t'as ton sujet de thèse et tu te casses ». Tu vas me montrer en quoi l'évolution de la pensée au XVIIIe siècle a permis l'apparition de ce mythe. Et à l'époque, donc, je suis parti pour un certain nombre d'années de travail à la Bibliothèque nationale, dans les manuscrits, etc. Donc oui, le vampire est un être tout à fait particulier. D'abord, donc je vous dis, il apparaît à une date très précise. Il apparaît au mois de mai 1693. C'est, on peut dire, en Europe de l'Ouest, sa date de naissance. Il apparaît dans un article du Mercure Galant, journal très lu à la cour du roi. Et cet article va faire fureur à son époque. Je vous en donne rapidement lecture et nous avancerons ensuite dans la perception du personnage. Après après avoir expliqué mes sentiments sur les créatures des éléments et autres fusées invisibles, corporelles ou spirituelles, il faut vous parler des Striges de Russie. Des Striges de Russie, effectivement, 1793, le mot vampire n'apparaît pas encore. Sa première occurrence est en Allemagne en 1725 et sa formalisation définitive en France, en Allemagne, vampire, et orthographié avec un Y, est de 1732. On en dira deux mots, c'est une étymologie très complexe, très controversée. Manifestement, ça a été un mot fabriqué. Hein. Et même Bloch et Warburg, quand même, qui ont une réputation d'étymologistes tout à fait établie, hein, dans le dictionnaire étymologique, Bloch et Warburg datent le terme de 1746, ce qui est donc une erreur. Manifestement, ils font référence à l'ouvrage de la dissertation, on en parlera de Don Calme, hein, qui est de 1746, mais le terme est apparu de toute façon bien avant. Et il n'évoque rien à propos de la construction linguistique du terme. Donc, dans l'article de 1693, il faut vous parler des Striges de Russie. Ces Striges sont communs et fréquents parmi les habitants de cette province. Ils les appellent Upiurs, ou pire, qui a le terme de revenant en roumain, et croient que ce sont des démons qui viennent la nuit leur sucer le sang pendant leur sommeil. Ces peuples les comparent à des oiseaux carnassiers et nocturnes que nous appelons sevèche ou orfraie et en latin strix, qui fait au pluriel strige. Et afin que vous m'en croyiez pas seul, voyez les relations entières qui vous a été envoyées de Pologne par notre ami M. Desnoyers et certifiées par des prêtres de probité connus de ces quartiers-là, de laquelle il a même été parlé dans le Mercure Galant du mois de mai dernier. Voici en quels termes il en a écrit. Il se trouve en ce pays et principalement en Russie des corps morts que l'on appelle en latin Striges, lesquels ont en soi une certaine humeur que le commun peuple, aussi bien que plusieurs personnes savantes, dit être du sang, lequel on veut que le démon tire ou suce des corps de quelques personnes vivantes ou de quelques bestiaux et le porte dans ce corps mort parce qu'on dit que ce démon sort de ce cadavre en un certain temps et fait beaucoup de vexations, et qu'il en sort depuis midi jusqu'à minuit. Après, il retourne dans ce cadavre, et y met ce sang qu'il a amassé, lequel sang se trouve dans ce cadavre par la longueur du temps, en si grande quantité, que si l'on y met ordre, il sort par la bouche, par le nez, et principalement par les oreilles, en telle abondance que ce cadavre nage dans son cercueil. Et le cadavre a une telle faim qu'il mange les linges qui sont autour de lui, et en effet, on les trouve dans sa bouche. Ce démon qui sort du cadavre va la nuit troubler, en dormant, ceux avec lesquels le cadavre pendant la vie avait eu le plus de familiarité, et leur fait beaucoup de peine en leur représentant la figure du corps mort quand il était vivant. Et comme s'il les embrassait, il les serre et affaiblit, de telle manière qu'ils s'éveillent et crient au secours, auquel temps on dit que ce démon leur suce le sang pour le porter dans le cadavre, et ceux qui sentent ces vexations deviennent maigres et atténués, et même en meurent. Et ce démon continue jusqu'à ce que tous ceux de cette famille en meurent l'un après l'autre. Il faut aussi savoir qu'il y a deux sortes de ces esprits, et que les uns vont aux bêtes, et les autres vont aux hommes, et ils sucent le sang, et le portent dans les cadavres humains, et ces bestiaux aussi en meurent, et ce qui causerait un grand ravage, tant sur les hommes que sur les bêtes, si l'on n'y prenait pas remède. Or, le remède, bon, je coupe ici le passage qui montre après certaines médecines qu'on devait prendre contre les vampires. Donc c'est la première apparition de ce personnage à la cour du roi. J'indique donc que le vampire est un revenant. Dans la démonologie, on peut considérer trois classes, à savoir le diable et les démons, être incréé, hein, présent de toute éternité, pour tourmenter les hommes. La personnalité du diable, d'ailleurs, dans la théologie chrétienne, est quelque chose d'extraordinairement complexe, car c'est quelque chose, c'est un être, somme toute, antithétique à la doxa chrétienne. Comment une religion monothéiste pourrait-elle admettre en son sein un antithéos ayant des pouvoirs semblables ou égaux au Créateur? Bon, il faut savoir, vous le savez sans doute, que les traductions de la Bible passaient d'abord par le grec, hein, ce qu'on a appelé la traduction des Septante, qui voulait que 70 rabbins aient fait chacun séparément une traduction de la Torah, et que cette traduction, que toutes les traductions étaient exactes à la lettre près, ce qui montrait que Dieu avait inspiré les traducteurs. Les historiens nous montrent que la traduction en grec a demandé à peu près 3 siècles, donc ceci est une légende, mais la première traduction de l'hébreu et de l'araméen passe par le grec. Et toute la connotation diabolique que l'on peut voir dans l'Ancien Testament est une perception de la pensée grecque. Hein. Et à savoir, à cet égard, le démon grec n'a rien de maléfique. Voir le démon de Socrate dans Cratyle, les daimones, étaient quelque chose qui donnait de l'esprit aux gens, de l'inspiration, de la science. Hein. Et à cet égard, diable, le diabolique, diabolus, deux morceaux, s'oppose au symbolique, symbolus, un morceau. Dans la pensée grecque, c'est la seule connotation qu'on a, le diabolique s'oppose au symbolique. Hein. Mais il n'y a pas de connotation maléfique. Et d'ailleurs, dans les noms du diable, dans l'Ancien Testament, qui sont multiples, hein, le plus courant, Satan, le plus connu, mettons, n'a que 5 occurrences dans tout l'Ancien Testament, ce qui est tout relativement peu, et la principale occurrence chez Job, et en fait, IHVH demande à Satan, un de ses anges, « Tu as parcouru le ciel et la terre, n'est-il pas vrai que Job est mon plus fidèle serviteur ?» Hein, Satan doit répondre sans doute quand tout va bien pour lui, mais si on le titille un peu, on va voir ce que ça va devenir. Et finalement, Satan est ici non pas diable, mais avocat du diable, hein, pour démontrer finalement que Job glorifie Dieu et est là que pour montrer toute la gloire de Dieu. Donc les démons, dans la théologie catholique tardive, hein, sont des êtres incréés, issus du diable.
C'est un dogme secondaire,
c'est-à-dire ça. Voilà. Voilà. Et tout le pandémonium, hein, est un peu cité dans les premiers pères, relativement peu. Ça apparaît principalement vers le XIIe siècle. C'est-à-dire qu'ils sont finalement de très tardifs. À cet égard, la figure du diable, c'est-à-dire la chute de l'ange, vient du livre 1 de Hénoc, hein, et livre apocryphe est là condamné en anathème par l'Église catholique. Et c'est à partir d'un livre qu'elle a elle-même condamné qu'elle va construire l'image naïve du catéchisme de l'ange déchu. Bon, je continue rapidement, sinon on dîne et on dîne ce soir et on prend la suite. Ensuite, nous avons tout ce qu'a chassé l'Église au XVIIe siècle, XVIe et XVIIe, à savoir la sorcière. La sorcière, donc, est un être vivant sur terre, qui vit et qui meurt, mais qui hérite d'un certain nombre de pouvoirs donnés par les démons. Le revenant est un être qui est né sur terre, ce n'est pas un démon, il est né sur terre, il a vécu, il est mort, et pour une raison particulière, il revient tourmenter les vivants. Il faut savoir que dans tous les textes religieux, y compris d'ailleurs dans la littérature, le revenant a horreur de son état de revenant. Hein, il voudrait avoir enfin le repos éternel dont il est privé, et il cherche à avoir enfin ce repos. On peut dire que les revenants sont la plupart du temps des personnes, je dirais, mortes en état de rupture symbolique. En état de rupture symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un acte symbolique qui n'a pas été effectué au moment de leur trépas. Et ils viennent demander cette réparation. Ça va être soit une messe qui n'a pas été dite, soit des prières, etc. Et ils veulent cette réparation. Certains reviennent parce qu'ils ont une vengeance à accomplir, d'autres une tâche qui n'ont pas encore terminé, mais je le répète, ils voudraient en terminer avec ce sursis, tout à fait entre guillemets, et avoir enfin le repos éternel. À partir du XVIIIe siècle, on voit un revenant particulier qui, lui, cherche à faire perdurer son état de non-vie, non-mort, et qui revient sans cause manifeste. Le vampire, à notre époque, est connu essentiellement par le roman de Bram Stoker, hein, Dracula, 1897. Bram Stoker s'était sérieusement documenté sur les vampires d'Europe centrale. On les trouvait, on va en parler là, effectivement du côté de la Transylvanie, de la Roumanie, du nord de la Grèce. Et donc Bram Stoker s'était bien documenté. Mais il a ajouté à son personnage une série d'ornements qui lui sont entièrement personnels et qui dénaturent ce que l'on pourrait comprendre aujourd'hui dans la naissance du mythe. Principalement, pour aller un peu vite, les fameuses dents de les canines acérées que l'on voit chez Dracula et dans tous les films, est une invention stockerienne. Hein, vous l'avez entendu un tout petit peu ici, le vampire suce. Et on a un grand nombre de rapports anatomiques de cadavres de vampires du XVIIIe siècle. Nulle part on ne parle d'hypertrophie dentaire. Par contre, on parle de traces bleutées au cou ou au ventre. Le vampire suce. Ce qui différencie du mythe de la dévoration. Le vampire ne mord pas, il suce. Ça n'est pas un ogre. Hein? Ce n'est pas quel, ce, la dent est une invention stockerienne. De façon également, là pour le coup un peu plus anecdotique, la disparition de l'image spéculaire est également une invention stockerienne. L'impossibilité de voir la lumière est aussi une invention stockerienne. Vous l'avez entendu tout de suite dans l'article du Mercure Galant. Les vampires, les striges de Hongrie, terme de l'époque, étaient réputés sortir de midi à minuit, donc sortir éventuellement au grand soleil. Qu'est-ce qui a pu agiter à ce moment-là les esprits de cette époque ? Il faut savoir que le roi a été très impressionné par l'article du Mercure Galant et il a envoyé une mission scientifique en Europe centrale pour le renseigner sur ces phénomènes étranges et épouvantables. Hein, et c'est le duc de Richelieu, ne pas confondre avec le cardinal, comme on le voit très souvent dans les ouvrages soi-disant sérieux qui parlent du vampire, hein, pour le renseigner sur ces questions. Et donc, le phénomène va en premier intéresser le corps médical. On ne rencontrera jamais deux vampires pris sur le fait, hein, en train de sucer une victime. Par contre, on va trouver, on va exhumer un grand nombre de cadavres de vampires. Et on aura des descriptions anatomiques extrêmement précises dues donc au corps médical. Ce sont les chirurgiens qui vont faire, au cours de ces exhumations, des rapports sur ces cadavres. Le premier texte que l'on aura de 1694, c'est un manuscrit, il s'appelle le Visum et Repertum, déposé au Parlement de Prague, hein, où il y a une cinquantaine de pages des rapports des chirurgiens sur les exhumations qu'ils ont opérées en Europe centrale.
À quel moment commencent les sections en la médecine légale?
Alors, on va en dire deux mots. Effectivement, on est en plein dans la folie de l'anatomie. Toute la société intellectuelle du XVIIIe pratique l'anatomie. Nous serions au XVIIIe, vous auriez tous et toutes un ou deux cadavres dans votre arrière-cuisine, pour une fois qu'on aura dîné avec les amis que vous aurez invités, faire la leçon d'anatomie entre amis. Et à l'époque, le roi devait mettre des hommes en armes dans les cimetières qui étaient toutes les nuits pillés, hein, par les gens qui récupéraient des cadavres, hein, pour trouver les fluides, etc. On est aussi... On n'est plus à l'époque des humeurs immobiles. La circulation sanguine, Harvey, c'est 1750. Donc on est un peu après l'idée de la circulation sanguine. Avec d'ailleurs des erreurs énormes. Les médecins qui pratiquent la saignée pensaient que le corps humain contenait 15 litres de sang. Il en contient 5. À peu près. Et la saignée, hein, était donc la médecine traditionnelle. J'ai lu, pour le travail avec Châtelet, j'ai lu tous les traités de la saignée de Hecke, chirurgien du roi, qui sont d'ailleurs extrêmement passionnants. Extrêmement passionnants, il y a une pensée totalement déconnectée d'une réalité, mais où le personnage... En fin de journée à la bibliothèque, il m'arrivait de bah oui, c'est pas con ce qu'il dit là. Je dis, attention, où on va, hein, parce qu'il saignait pour tout et n'importe quoi. Bien sûr, on saignait les hystériques, ça va sans dire, et ça devait être sûrement très efficace, mais on saignait aussi quelqu'un qui était victime d'une hémorragie. Hein, il pratiquait, il dit dans ses textes, et qu'il a eu certaines patientes auxquelles il pratiquait la saignée du pied à une livre du sang tous les deux jours pendant 3 mois. Et pour dire que, ma foi, il était fort content, car à l'issue du traitement, la malade, paraît-il, n'était pas complètement affaiblie. Alors bon, il y a quand même eu, je trouve, aussi des textes contre la saignée du pied, il a quand même eu des détracteurs, mais enfin, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, lorsque les chirurgiens donc arrivent en Europe centrale, ce qu'on leur rapporte, et ce qui va devenir le symptôme premier que n'a pas retenu Bram Stoker, le symptôme premier qui va indiquer qu'on est en présence d'un cadavre de vampire, c'est que son corps est devenu imputrescible. Ce fut la condition nécessaire et suffisante pour être en présence d'un corps de vampire. On dit qu'un cadavre enterré depuis plusieurs mois, exhumé par nous, chirurgiens batuaires, c'est un des personnages, hein, avons constaté qu'au lieu d'une décomposition avancée, elle aurait dû se trouver, les chairs étaient molles et vermeilles, une peau rose et rubiconde apparaissait sous une première peau déjà craquelée, que les ongles et les cheveux avaient exagérément poussé, ils ignoraient à l'époque que ça continuait un peu à pousser, que le cadavre avait les yeux grands ouverts, hein, et que lorsqu'on lui enfonçait le pieu dans la poitrine, et là c'est une, effectivement une expédition contre les vampires, il poussait un gigantesque cri. Rapport donc des médecins, qui d'ailleurs analyse le fait que peut-être le pieu chassant, enfoncé violemment, et donc comprimant la cage thoracique, devait violemment projeter l'air contre les cordes vocales et provoquer le cri que l'on entendait. Ils n'étaient pas idiots, hein, bon, etc. Mais il fallait absolument que le corps ne se décompose pas. 1732 va être l'année, l'apogée de l'épidémie vampirique. 1732, où il y a 35 traités qui paraissent sur le sujet, hein, où des centaines de cimetières sont exhumés, et où on va brûler des cimetières entiers. Une personne qui aura été inhumée depuis ne serait-ce que quelques jours, dont le corps est trouvé intact, sera considérée comme vampire. Et à ce moment-là, on va déterrer et brûler le cimetière en entier, de peur que par contagion sous la terre, le vampire primaire ne crée des métastases chez les cadavres environnants. Une autre particularité qu'a retenu Bram Stoker du vampire et qui est unique dans l'histoire de la démologie, c'est la faculté qu'avait le vampire de transmettre son état démoniaque. C'est-à-dire que, comme on le disait ici, les personnes molestées par les vampires s'exténuaient, s'atténuaient pour mourir rapidement et devenir vampires à leur tour. Seul cas dans la démonologie où on observe cette transmission. Qu'est-ce qui a pu se passer à cette époque pour mettre en place quelque chose comme ça, où une sorte d'immortalité est annoncée, hein, et que pour ça apparaisse d'une façon tellement massive. Alors, la peste. Il y a eu deux livres, juste avant l'article du Mercure Galant, qui ont le même titre, tous les deux, l'un de Ranft, l'eau de Rohr, Christopher Rohr, R-H-O-R, De masticatione mortuorum in tumulis liber, de la mastication des morts dans leur cercueil, où certains disent dans les, avoir entendu dans les cimetières comme des grognements de porcs. Exhumant les corps, ils trouvent des cadavres amputés. Ils attribuent dans un premier temps cette particularité à la peste. Ils pensent que des gens morts de peste pouvaient d'abord avoir une sorte de semi non putréfaction, ils étaient quand même un peu décomposés, et résistaient sous terre. Bon, l'idée du démon vient quand même très rapidement, et Rohr commente des scènes où il pense que des cadavres se seraient eux-mêmes mangés une main. Dans le texte, on dit que les vampires mangeaient les draps qui étaient autour de leur corps, et certains cadavres se seraient dévorés une main. C'est à ce moment que la médecine publie les premiers ouvrages, entre autres, je retrouverai son nom tout à l'heure, de l'incertitude des signes de la mort, hein, où c'est une grande hantise que des gens soient enterrés vivants, et voilà. Alors, j'avais trouvé drôle, parce que j'avais trouvé dans mon travail, dans la revue Newsweek, que des Marines mortes au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et rapatriées aux États-Unis, étaient dans des cercueils plombés avant d'être dans le cercueil définitif, et que certains, paraît-il, arrivés aux États-Unis, lorsqu'on ouvre le cercueil plombé, on voit qu'ils se sont mangés une main, voire un bras. Hein, et l'article de Newsweek dit que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu telle chose. Et si, au XVIIIe siècle, ça se voyait très bien. Mais les Américains sont prévoyants. Allez, ensuite, ils ont mis des sonnettes dans les cimetières. Ouais. Hein, il y a le cardinal du cimetière, tiens, il y a le 8 qui sonne, il faut aller voir. Voilà.
Enfin, voilà, donc, à l'époque, ça a été interprété
comme
fait que
les gens étaient morts. Oui, c'est ça. État des quatre catalepsies. Oui. Il y a une foule de textes sur les morts non morts au XVIIIe qui sont tout à fait savoureux. Il est rapporté l'histoire dans plusieurs textes d'ailleurs d'une femme riche décédée et qui veut être enterrée avec un splendide diamant qu'elle portait au doigt, hein, et ses héritiers avaient essayé de lui piquer, mais bon, maintenant le doigt avait enflé et tout, bon, ça fait rien, il l'inhume comme ça. Un valet avait repéré l'histoire, la nuit il se transporte dans la chambre mortuaire, et d'un coup de hache, il coupe le doigt de la personne, et le coup de hache réveille la morte qui n'était pas si morte que ça, et lui fait pousser un immense cri qui terrifie le voleur qui en meurt sur le coup. Il y a parfois une justice. Hein, voilà. Bon. Alors, le XVIIIe siècle est le moment, je dis, où le corps entre en résistance. Le corps, au 18e, se veut indestructible. On a, début du 18e, 1800, c'est dans les années 1830, l'épidémie, si on peut dire, pariste à Paris. Un certain diacre, Monsieur de Paris, faisait, paraît-il, un certain nombre de miracles, hein, mais meurt et est enterré au cimetière de Saint-Médard. Ses fidèles s'approchent de sa tombe et on voit, paraît-il, un grand nombre de guérisons miraculeuses autour de sa tombe. Et ces guérisons s'accompagnaient d'une agitation corporelle extraordinaire. C'est-à-dire qu'on aura toute la description que va faire Charcot de la grande hystérie, hein, un siècle plus tard, autour de la tombe du diacre de Paris, où on voit que les gens, dès qu'ils approchaient de la tombe, se contorsionnaient, tombaient par terre, formaient ce qu'on appelait l'épistodonos, hein, etc. Et l'on voit toutes les paralysies hystériques qui étaient déjà florissantes au 18e, approcher de la tombe du diacre de Paris et se contorsionner pour, paraît-il, guérir. Il y a une telle agitation que le roi doit faire fermer le cimetière et le faire garder par des hommes en armes. Il n'empêche que les paristes, appelés comme cela, continuent à se réunir, essayent de prendre de la terre du cimetière et font, paraît-il, des guérisons, mais dans des états de violence physique absolument extraordinaires, où pour guérir, les gens sont battus de gourdins, frappés de coups d'épée, voire défenestrés. Hein, il y a quelque chose où le corps résiste. C'est également l'époque des camisards, à savoir donc la révolte des protestants contre l'ordre papiste dans les Cévennes, ou ceux qu'on a appelés les prédicateurs du désert, hein, qui étaient de jeunes hommes, des adolescents, qui appelaient les protestants à se soulever contre l'ordre papiste, hein, avant de faire leur prédication, avaient la grande crise, hein, la grande crise hystérique, typiquement celle que va décrire d'écrire Charcot avec le corps qui se contorsionne et ils se mettent à parler en langue, c'est-à-dire en français, langue qu'ils ne parlaient pas, ils parlaient Locke. Hein? Également, on voit une résistance du corps extraordinaire, ce sont des gens qui se mettent à marcher sur le feu, à offrir leur corps à des coups d'épée ou des coups de hallebarde, à ce qu'on leur tire des balles sur eux, et le corps reste intact. On a un grand nombre de descriptions d'ailleurs faites par les protestants eux-mêmes, hein, ce n'est pas des ouvrages qui cherchent à les ridiculiser, c'est justement ils revendiquent quelque chose comme ça. Comme dit, le corps prend le maquis, le corps entre en résistance. C'est 1700, un peu plus tard, 1789, quand il est libéré, hein, les écrits de Sade, où on voit quoi, hein, par exemple, Justine, hein, sur quelques centaines de pages, qui peut subir tous les outrages qu'un corps peut subir, hein, elle est violée par tous les orifices possibles, elle est flagellée, battue, elle reste finalement, jusqu'à la fin du bouquin, intacte, quasiment vierge. Et ce qui est extraordinaire dans l'intuition de Sade, c'est qu'il ne faut pas moins de la foudre du ciel qui lui tombe sur la tête pour la faire passer de vie à trépas. Hein? Il y a comme ça quelque chose où le corps doit rester indestructible. Alors, c'est à quelques années près, mais les symptômes sociaux ne sont pas d'une précision datative extraordinaire, le premier écrit des philosophes matérialiste, entre autres de la Métrie. De la Métrie va écrire le traité de l'âme, quand même extraordinaire qu'il y a eu une réédition il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, philosophe français quand même, pour le lire, j'ai dû prendre l'édition originale, hein, de 1750. Aucune édition depuis l'édition originale du traité de l'âme. De la Métrie nous dit que l'âme est un rouage du corps. Rouage certainement subtil, mais mécanique, qu'un habile chirurgien devrait pouvoir isoler. Le premier ouvrage est condamné à être brûlé et lacéré. Le second, publié à Londres, l'Église baisse les bras et ne met aucune interdiction. 50 ans avant, ça aurait largement senti le fagot. Là, il peut le publier. L'Église est atteinte quelque part. Ce que nous montre de la Métrie, avec sa position de l'âme, c'est que l'âme, si elle met le corps, si elle anime le corps, n'a rien de divin et d'immortel. Ça n'est qu'un rouage. À partir de là, c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un peut battre en brèche ce thème, à savoir que le corps, une fois privé de cette âme, redeviendra poussière, deviendra la charogne infâme que va décrire Baudelaire, mais en tout cas ne renaîtra pas de ses cendres et ne se renaîtra pas sous forme du corps glorieux le jour de la résurrection. Celui qu'on aura au moment de notre mort, ou celui qu'on avait à 33 ans, si on a l'outrecuidance de désincter après. Ce dogme n'avait jusqu'à présent été critiqué par personne. L'Église a connu des hérétiques, mais aucune critique fondamentale là-dessus. Au moment donc où le corps est voué à sa perte définitive, irréversible, qu'est-ce qu'on observe comme symptôme? Des corps qui refusent de se décomposer et qui transmettent leur immortalité que l'Église ne peut plus leur assurer. Ce qui, depuis les premiers pères de l'Église, avait été une assurance pour la population. Au moment où, du côté du divin, cette assurance ne peut plus être retenue, elle verse du côté diabolique. Si flectere nequeo superos, acquérons un mauvais mot. N'est-ce pas? Ce qui ne peut plus être promis du côté de Dieu, on va le chercher du côté du diable. Pour moi, l'apparition du vampire au 18e est le symptôme, symptôme au sens psychanalytique du terme, retour de refoulé, et le symptôme du fait que l'Église chrétienne ne peut plus assurer ce qu'elle a assuré depuis, à l'époque, presque 2000 millénaires. Et on peut comprendre à ce moment-là que Prospero Lambertini, hein, le pape Clément XIV, refuse tout à fait ce personnage qui l'a dérange l'Église dans ses fondements les plus sensibles.
Donc le Concile de Trente est enterré.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les démonologues auxquels je me suis opposé, je me vante un petit peu, mais enfin à l'époque où j'ai commencé le travail, il y avait peu de travaux sur le vampire. J'ai dû combattre un certain nombre de démonologues qui font remonter le vampire à la plus haute antiquité. Ma première objection a été simplement qu'il n'existe pas parce qu'il ne peut pas, parce que son nom n'existe pas. Hein? Vampire, donc arrive, je vous l'ai dit, première occurrence 1725. Les étymologies sont très variables. La seule racine qui tient, c'est pibere, boire. Hein, en roumain, et une connotation hébraïque, le dam, D-H-A-M, dam piren, dam le sang. C'est la seule étymologie qui tienne à peu près. Il y a eu un certain nombre de publications sur la question, aucune n'est vraiment attestable. Pourquoi une origine hébraïque? Je ne sais pas. Probablement que le nom aura été donné par les scientifiques envoyés en mission par le roi pour le renseigner sur ces... C'est à ce moment-là d'ailleurs que Geist, hein, a été également produit. Il y a une terminologie nouvelle qui apparaît à ce moment-là. Avant le vampire, on aura repéré ce que moi j'appelle aujourd'hui des proto-vampires. À savoir des êtres qui font avec le sang, mais qui n'ont pas les caractéristiques nécessaires, à savoir d'être des revenants, c'est-à-dire qui a vécu sur Terre et qui meurt, avec une non-décomposition de la chair, et un être qui, avec le sang, transmet son état démoniaque. On voit au XVIIe siècle, dans l'Hexaméron d'Antoine de Torquemada, grand inquisiteur bien connu en Espagne, un texte sur les chevêches. Vous en avez tout de suite un petit peu eu quelques relations dans l'article du Mercure Galant. L'auteur est anonyme, hein, mais qui avait l'air tout à fait au courant de la démonologie. La chevêche, donc, est une chouette de la famille des Strigidés, qui aurait une fonction infanticide et qui aspirerait le sang des nouveau-nés. C'est un passage de l'Hexaméron, j'ai pas le temps de vous les lire, là j'ai tous les textes ici, mais je vous le répète, on n'y passerait pas longtemps. Antoine de Torquemada demandant à au moine, mais comment une chose aussi incroyable se peut-elle, les pores de la peau étant si étroits et serrés qu'aucune humeur ne peut la traverser. L'autre de lui répondre, en bottant en touche, les pouvoirs du démon sont tellement grands qu'on peut tout à fait comprendre qu'il y réussisse. Bon. Donc la chevêche est un être infanticide, et c'est vrai que les proto-vampires étaient pratiquement tous des infanticides. La référence de base, et sont les l'ami qui va venir de Lamia, hein, et j'ai un petit trou dans la Bible, celle qui est pas née d'Adam,
Lilith,
voilà. Alors le mythe de Lilith est parallèle à un mythe grec, à savoir Junon, première femme de Jupiter, hein, est jalouse de la progéniture de Lamia et fait périr tous ses enfants. Lilith, celle qui n'est pas née d'Adam. Lilith, on la trouve une fois dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 13, et je ne vous dirai pas le verset de tête. Hein. C'est la seule fois où elle apparaît. On la trouve dans le Zohar. Ça serait une femme qui ne serait pas née d'Adam et qui aurait refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Moyennant quoi, elle est chassée et, furieuse des progénitures de Ève, cherche à les détruire. Et dans certains rituels juifs orthodoxes, lorsque une femme va accoucher, on écrit aux quatre coins de la pièce le nom des quatre anges qui ont été envoyés par Dieu pour détruire Lilith. Hein? Et elle est détruite en aspirant le sang. Donc des êtres infanticides, hématophiles. Mais si cela va constituer les matériaux qui vont amener le vampire, ce ne sont pas des vampires. Une cinquantaine d'années avant l'explosion des vampires d'Europe centrale, on trouve en Grèce un personnage qui va y ressembler beaucoup, qu'on appelle le broucolac, ou broucolac, de toute façon le B et le V sont identiques. On en trouve des récits chez un voyageur connu qui avait ramené beaucoup de récits de pays lointains pour l'époque, à savoir Python de Tournefort, hein, qui décrit des exactions faites par ces personnages broucolac qui sont des cadavres qui sortent effectivement de leur tombe, qui ne tombent pas en décomposition. L'Église orthodoxe, par contre, montre que ce sont des gens morts en état d'excommunication. Hein? Et si on lit d'ailleurs le rituel d'excommunication grecque de l'époque, c'est une des condamnations à laquelle est assujettie la personne, c'est que pour les siècles et les siècles, son corps ne se décomposera pas. Hein? Et d'une façon étonnante, le cadavre obéit à l'excommunication, donc au texte qui lui a été lancé. Vous pourrez lire hein, le récit de Python de Tournefort là-dessus, c'est absolument savoureux. Savoureux où pendant plusieurs jours, les gens essaient de se débarrasser d'un cadavre, on lui met une épée sur le cercueil, parce que la croix que va former l'épée va sûrement l'empêcher de sortir de sa tombe, et certains vont remarquer que qu'il était peut-être pas chrétien mais musulman, et que donc il n'a rien à faire avec la croix, bah, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça qui montrent d'ailleurs un extraordinaire désarroi hein, devant quelque chose qui sort des courants de pensée, qui sort des courants de pensée de l'époque. En même temps, le 18e, ça va être aussi le moment de la science, expérimentale, hein, et il y a quelque chose justement où le divin ne fonctionne plus. L'apogée donc du vampire 1732, rapidement on ne va plus en parler. Le nom du vampire au 18e, il y en a quelques-uns, Cuvier et Grandneau, Arnold Paolet, Pierre-Paul Lebovitz. Ce sont le, si j'ai le temps, je vous dirai encore une relation d'exhumation assez savoureuse, mais ça disparaît rapidement. 1750, c'est complètement oublié. Le vampire là va revenir au début du 19e, hein, au début du 19e, 1820, je ne vous garantis pas les dates exactes, je pourrais vous les dire exactement, mais bon, il faut que je foute dans mes notes, ou sur les bords du lac Léman, deux personnages, enfin quatre, se rencontrent. C'est une année qu'on a appelée l'année sans été. Il avait plu à peu près tous les jours. Et quelques personnes avaient loué une gigantesque villa sur les bords du lac Léman, un mois de juin, où il plut tous les jours. On peut imaginer l'ambiance que ça pouvait être. Hein. Alors, ces personnes se sont donné le pari, suite à un ennui mortel, d'écrire dans la nuit une histoire de fantômes. Deux ont tenu le pari. Ces personnages étaient Lord Byron et Mary Wollstonecraft, et Percy Shelley. Percy Shelley, considéré comme le plus grand poète de son époque en Angleterre, a fui la noblesse victorienne en emmenant Mary Wollstonecraft, qui va devenir Mary Shelley. Mary Shelley va écrire Frankenstein, hein, ou le Prométhée moderne. Byron va écrire quelques pages d'une nouvelle qui ne terminera pas. Mais son secrétaire et ennemi intime, John William Polidori, à son retour à Londres, va terminer la nouvelle et la faire éditer chez l'éditeur Colburn. L'éditeur, pensant que le nom de Byron va davantage faire vendre que l'inconnu Polidori, signe le texte de Byron. Byron est furieux et renie le texte. Et on aura donc la nouvelle... The Vampire Tale by the Right Honorable Lord Byron. D'un côté, on va avoir tout l'axe de la littérature fantastique, et de l'autre avec le vampire, et de l'autre côté, l'axe de la science-fiction avec Frankenstein, qui est donc un personnage fabriqué de briques et de brocs avec des pièces de cadavres et qui en fait fait référence à la science moderne. D'un côté, on a la démonologie, le personnage démoniaque du vampire de Byron. De l'autre, le personnage fabriqué par la science. Et ça va agiter tout le 19e siècle. Et le vampire au 19e siècle s'appellera Lord Ruthven, qui va être le nom du héros de Byron. Ce héros va être chanté. Il y aura 7 opéras qui auront pour titre et thème le vampire, hein, qui auront un succès extraordinaire au 19e siècle et tombent complètement dans l'oubli au 20e. Les deux plus connus sont de Marschner et Lynn Pintner, vous connaissez tous et toutes évidemment, hein, mondialement inconnus, mais qui ont une musique extraordinaire, à l'issue de ma thèse, donc j'ai monté à la Bibliothèque Nationale une version concert de ces opéras qui n'avaient jamais plus été joués, qui sont absolument fabuleux, et donc tout le 19e chante le vampire, hein, au nom de Ruthven. Fin du 19e, 1897, on a Bram Stoker qui va donner le nom du vampire du 20e siècle que vous connaissez, Dracula, hein, bien sûr, auquel il prend le nom du Voïde du XVIe siècle, hein, d'un comte de Roumanie, sanguinaire, Vlad l'Empaleur, Vlad Tepes, mais vénéré en Roumanie pour avoir délivré la Roumanie des Turcs. Hein. Tout le 20e siècle, c'est Dracula. Le 21e dans lequel nous arrivons, probablement il va s'appeler Lestat, hein, à partir des nouvelles Rice, hein, qui a voulu écrire une nouvelle sur les vampires et qui en est, je crois, à son huitième tome de sa saga. Voilà. Ceci étant, donc, bon, je crois qu'on peut, je peux vous donner un peu la parole pendant les quelques minutes qui nous restent, hein, pour, sinon, moi, je continue jusqu'à demain.
Allez-y, si vous avez des questions, des remarques à faire.
J'aurais une question. À un moment donné, vous parlez du diabolus et du symbolus, et vous dites qu'ils sont opposés.
Diabolique et symbolique. Division, réunion.
Ah, d'accord.
Deux morceaux, un morceau. Division, réunion.
Est-ce que le revenant, en tout cas, vient demander quelque chose, est-ce que c'est le traumatisme pour lequel il revient qui vient faire, pas clivage, mais en tout cas qui divise le symbolus en diabolus, d'ailleurs en deux, enfin, est-ce que c'est ça qui viendrait? Est-ce que c'est ce qu'il vient redemander en tant que revenant qui est donc le symbole du traumatisme, qui fait que du symbolique, donc de l'unité, il devient deux parties. C'est ce sujet-là, c'est le traumatisant qui le divise en deux.
On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. On en a beaucoup de récits, alors j'ai pas, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas cité l'ouvrage Princeps Tardif. En France, Tardif sur le vampire, il est de 1746, il est du révérend père bénédictin Don Augustin Calmet, hein, qui est la dissertation sur les apparitions revenants et vampires des pays de Prusse, Russie, Moravie, donc qui est en deux tomes, un thème sur les anges et un thème sur les apparitions des esprits et des vampires. 500 pages chacun, hein, où il y a énormément de relations comme ça de mort qui viennent réclamer. Qui ne réclamaient leur dû. Et effectivement, de passer dans le diabolus, dans la séparation, est quelque chose que l'on peut tout à fait verbaliser de cette manière-là. Oui.
Moi, j'avais une question, peut-être que vous l'avez abordée après, sur la façon dont l'Empire a été cinématographié, puis en film. Et donc, le lien que vous voyez dans tout le monde, dans son axe, c'est la le film Dracula et la période historique. La période historique au moment où ce film a été fait. Parce qu'il y a eu des liens qui ont été faits, je crois, entre, par exemple, le fascisme, le nazisme et puis l'Empire. Peut-être que vous pouvez nous en parler après.
Oui. C'est assez compliqué en fait, parce que d'abord, bon, le premier, c'est l'Empire de Dreyer, hein, qui est. Voilà. Ensuite. Vampire avec Bela Lugosi, hein, et le troisième surtout, de Murnau, hein, Nosferatu le vampire, qui est devenu un petit peu le parangon, hein, du film de vampire. Alors, d'abord, il y a eu un procès de la veuve de Bram Stoker contre Murnau, hein, qui n'a même pas cité Stoker, alors qu'il prend presque littéralement l'ouvrage de Stoker. Alors, il est certain, mais si on prend, voyez un peu l'affiche du film, le Dracula est vraiment le profil du juif. Hein, le profil du juif, et le bateau qui vient échouer dans le port est envahi par les rats, hein, qui grouillent. Hein, et effectivement, avec les textes nazis comparant le juif à la vermine, hein, et qui va polluer la race aryenne, est quelque chose qui, dont on peut tout à fait sentir quelque chose. Je me souviens pas, par contre, j'ai fait un colloque, un des colloques de Cerisy sur le vampire, où Monsieur de Gandillac, quand même grand érudit devant l'Éternel, affirme qu'on ne peut pas, selon lui, soupçonner Murnau d'antisémitisme. Peut-être, mais il n'en reste pas moins que les images qu'il donne peuvent très directement faire penser à quelque chose comme ça, et surtout avec l'histoire du sang contaminé, hein, de ce qui va polluer la race. Il est étonnant même que au 18e, l'idée de la contamination ait été si grande. Ce que je vous disais tout à l'heure, un cadavre de vampire dans un cimetière, on brûle le cimetière entier, hein, à cause de la contamination, de la contagion possible. Hein, oui, moi je pense. Et pourquoi l'étymologie de Dame Pirène, hein, avec le mot hébreu pour le sang, il y a des liens que je ne vois pas complètement, mais qui sont probablement. Oui.
Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Hein.
Je t'en prie, je t'en remercie.